17h45 sur RRP, Info Week-end, Isabelle Pelletier.
Un accident de la route entre Thio et Saraméa a fait deux blessés, dont un grave ce matin. On cause un arbre qui barrait la route. À Yengen, c'est un homme qui a trouvé la mort lors d'un coup de châssis hier soir. Le festival Olympar anime depuis ce matin le skatepark de Sainte-Marie. L'objectif, proposer des activités ludiques et sportives pour promouvoir les Jeux Olympiques. Israël en état d'alerte maximale. L'État hébreu craint des attaques en représailles après l'annonce d'un jour de colère décrété par le Hamas. La suite des Jeux Olympiques, Maxime Grousset est engagé demain en finale du 100 mètres papillon. Et puis le sport en Calédonie, dernier week-end de match pour le championnat de Calédonie de padel. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal au chapitre des faits divers. Une collision entre deux voitures sur la RP4 entre Thio et Saraméa a fait deux blessés ce matin, Mickaël Juneski.
Oui, en cause, un arbre qui servait de barrage sur la route entre Thio et Saraméa. Le véhicule qui venait de Thio a voulu éviter l'arbre et s'est décalé sur la voie de gauche, entrant en collision avec une voiture qui arrivait en sens inverse. Dans la première voiture, quatre personnes étaient à bord, deux blessés sont à déplorer. Une personne blessée à la tête qui a perdu connaissance, elle a été évasané vers le Medipôle. Le deuxième passager a été blessé au bras. Dans le deuxième véhicule, un seul passager qui, lui, n'a pas été blessé. Les pompiers sont arrivés rapidement sur place. Aucune personne n'était sous l'emprise de l'alcool.
Et puis ce drame survenu hier soir à Yengen, un homme a trouvé la mort dans un accident de chasse.
Pour l'heure, encore très peu d'éléments sur ce qui s'est passé. La victime aurait été touchée par un tir à la tête dans la soirée alors qu'elle était partie pour un coup de chasse. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes dans lesquelles ce drame est survenu. La victime était âgée de 32 ans. Et puis toujours au chapitre des faits divers, l'un des bungalows du restaurant du Vallon d'Or a été incendié la nuit dernière. La contagion à d'autres bungalows situés à proximité a été rapidement maîtrisée par les pompiers.
Et puis la circulation dans le secteur sud, sur la ville du Mont-d'Or, est normale pour la journée. Dans le nord de la commune, on a signalé dans la journée également quelques chicanes sur la Conception qui ont été déblayées au fur et à mesure. Le tronçon de route à hauteur de Saint-Louis est toujours bloqué par les forces de l'ordre. Les mesures de couvre-feu prolongées sur l'ensemble du territoire, une décision prise hier par le haut-commissaire qui précise que ce couvre-feu restera en vigueur de 22h à 5h du matin jusqu'à lundi 12 août. La vente d'alcool reste interdite sur l'ensemble du territoire pendant cette période, y compris chez les cavistes. Le transport d'âmes est également interdit. Le mouvement nationaliste, indépendantiste et souverainiste, le MNIS, a saisi le tribunal administratif en référé pour demander la suspension puis l'annulation de l'instauration par la province sud d'un ticket modérateur de 10% concernant certains frais, comme les transports sanitaires ou les soins à domicile pour les bénéficiaires de l'aide médicale gratuite en longue maladie. Les précisions de Mouneiko Aoukas, la présidente du MNIS.
Derrière des lignes budgétaires commerciales d'économie et de rationalisation, c'est des personnes qui sont derrière. Et sur la santé, on ne fait pas d'économie. C'est de l'investissement parce que ce n'est pas des lignes de dépenses, parce que c'est des personnes malades, c'est les plus vulnérables de notre société, de la province sud. Ils sont 26 000 et parmi ces 26 000 ressortissants de la province sud bénéficiaires de l'aide médicale, on a une bonne partie de 100%, de 100% malades, des personnes qui n'ont pas les revenus, qui sont les plus vulnérables. Et s'il y a des pôles de dépenses à faire des économies, c'est bien évidemment pas sur la santé.
Le MNIS qui annonce une décision du tribunal administratif au 26 août prochain. Le festival Olympar a donc pris ce matin ses quartiers pour deux jours au skatepark de Sainte-Marie et au programme de nombreuses activités ludiques et sportives pour promouvoir les Jeux Olympiques. Sarah Mégerie.
Deux jours pour promouvoir les nouvelles disciplines inscrites aux JO comme le skate et le breakdance, mais aussi célébrer la culture urbaine et faire découvrir d'autres activités originales comme la slackline ou l'acro-yoga. Il y avait déjà du monde ce matin attiré par l'événement et par le retour du soleil, une fréquentation dont se réjouit Antoine Dalia, le président du groupement d'employeurs sport et loisirs Sud, organisateur du festival Olympar.
J'ai vu ce matin que le parcours, donc initiation parcours, qui fonctionnait très bien là, les petits échauffements et voilà, sauter sur les palettes, sur les blocs en béton, etc. Donc voilà, on s'est adapté au terrain et donc les enfants, ça marche pas mal de ce côté-là. Alors c'est vrai que là, ben, on a du monde aussi sur le BMX et sur le skate. Donc c'est des activités qui sont aux Jeux Olympiques. Là, je pense que le triplé historique des Français ce matin en BMX va faire un peu son effet pour le week-end. Et puis j'attends avec impatience les initiations, les démonstrations cet après-midi en breakdance, qui sont aussi aux Jeux Olympiques. On travaille avec une association, c'est ça qui est bon, donc ils font du slackline. Et puis en fait, ils ont une petite communauté, donc slackline, acro-yoga, après c'est du cerceau. Donc voilà, ils ont plusieurs activités que vous pouvez retrouver sur place avec des démonstrations et pas mal d'initiations.
Stanley Sabrier, le président du club Tropical Shredder, une association dédiée au skate, une discipline dont il fait la démonstration au travers de ses riders tout en recherchant des talents en herbe.
Des initiations donc ce matin principalement sur le parc et le pump track. Demain par contre on a de la même manière des initiations en début d'après-midi, mais une compétition qui sera organisée entre 15h30 et 16h30 où on va avoir on espère les riders qui vont venir montrer ce dont ils sont capables et ça va être le spectacle.
Vous avez quel public en gros?
Beaucoup de jeunes, d'adolescents et effectivement pas mal de filles aussi parmi mes élèves qui sont intéressées. Et vous parlez effectivement de jeunes, à quel public ça touche, mais quand on voit les participants au JO, surtout chez les femmes, la moyenne d'âge c'est à peu près 18-20 ans, donc ça attire beaucoup, mais il n'y a pas d'âge. L'idée c'est qu'à partir de 5-6 ans, il y a une attention qui est peut-être réduite par rapport aux autres, mais si la passion est là, il n'y a pas d'âge.
Dimitri et Manu sont des habitués du skatepark et pratiquent la trottinette en bande depuis quelques années. Ce week-end, c'est l'occasion pour eux de pratiquer en ambiance, voire pourquoi pas de découvrir d'autres activités.
On vient souvent ensemble et c'est bien, ça met plus de motivation, etc. Moi là, ça va faire 3 ans et demi que j'en fais et après ils ont tous des niveaux différents. Lui il en fait depuis un an et demi et puis voilà. Ouais, c'est plus sympa, il y a plus de motivation quand même que d'habitude et ça nous motive plus, ouais. Ouais, c'est cool, il y a du monde.
On a une bande, c'est la bande du skatepark avec un groupe d'amis, tout ça, puis on ride ensemble, on se motive, tout ça, et c'est cool. Genre. Bah, il y a juste plus de monde sur le parc, il y a de la musique, du coup, bah, ça, c'est plus ambiance, du coup.
Le festival Olympa reprendra demain matin de 8h30 à 17h.
Et puis Droit au vélo s'était installé pour la journée sur le site du skatepark de Sainte-Marie. À l'occasion de ce festival, l'association organisait une bourse au vélo. Droit au vélo entend bien sûr promouvoir les déplacements en mode doux, mais aussi aider tant ceux qui souhaitaient vendre leur vélo que les éventuelles victimes d'exactions en recherche d'un moyen de se déplacer. Tristan Lignol est animateur de l'association Droit au vélo.
Aujourd'hui, on a eu pas mal de vélos qui ont été déposés. On commence à faire des ventes, donc on est plutôt optimiste sur le succès de cet événement, dont l'objectif pour nous est avant tout de mettre un maximum de vélos en circulation, parce que c'est l'objet de l'association Droit au vélo, c'est de promouvoir le vélo comme mode de déplacement au quotidien. L'objectif de cette bourse au vélo, c'est aussi de permettre aux Calédoniens de retrouver de la mobilité. Il y a beaucoup de personnes qui, dû aux exactions, ont perdu leur véhicule ou d'autres leur mobilité parce que les réseaux de transport en commun sont à l'arrêt. Et donc, on sait qu'il y a des vélos qui traînent dans les garages qui ne servent pas à certaines personnes et qui pourraient être utiles pour d'autres. Donc, l'objectif, c'est de faire l'intermédiaire entre ces vendeurs et ces acheteurs.
Maya Emira était venue ce matin acheter un vélo, l'une pour se déplacer en ville et faire des randonnées, l'autre pour assortir son vélo de course avec un VTT.
Entre votre genou et l'axe de la pédale, il faudrait que ce soit à peu près droit. Si c'est pas le cas, si c'est trop avancé, ce que vous pouvez faire, c'est la selle, vous pouvez la reculer un peu ou l'avancer.
Je cherchais un vélo qui serve surtout au déplacement quotidien Nouméa, mais qui puisse aussi servir pour aller se balader le week-end et être confortable sur une journée de randonnée par exemple.
Donc là, vous avez trouvé votre bonheur?
Eh bien oui, tout à fait.
J'ai déjà un vélo de course avec des pneus très fins. Et en fait, je ne peux l'utiliser que sur l'asphalte. Je ne peux pas l'utiliser sur la terre. Et je cherche un vélo avec des gros pneus comme ça. Ça m'arrangerait bien. Donc je fais le tour et puis j'espère que je vais trouver mon bonheur. Voilà.
Les futurs acquéreurs avaient jusqu'à 15h30 pour finaliser leur achat. L'un des sites sportifs de Nouméa qui avait été touché par les exactions a rouvert au public. Les boucles de Tina, le domaine de VTT de la province sud, accueillaient de nombreux pratiquants ce samedi, souvent venus en famille pour profiter de cet espace naturel. Les avis étaient contrastés entre le plaisir de retrouver le site et la découverte de locaux calcinés qui demeurent à l'entrée des boucles de Tina.
On avait hâte de pouvoir revenir parce que c'est vrai que depuis début mai, on faisait les allers-retours sur la promenade en vélo et c'était un peu répétitif, mais tant mieux si ça a pu être préservé. C'est vrai que c'est un très beau site. Bravo à ceux qui ont su protéger le site pendant ces semaines.
Je suis là pour profiter de la réouverture des pistes. Voilà, comme on peut voir, c'est brûlé à l'entrée, mais on vient avant tout pour l'espace naturel, profiter un peu de cette petite bulle d'oxygène dans cette situation de crise.
C'est bien dommage, quoi. encore une structure en moins. Ça fait pas loin de 30 ans que je viens ici. J'ai connu la piste, c'était tout en terre.
Bah, je suis un peu découragé de voir toutes ces infrastructures dégradées. Mais bon, on peut fonctionner au minimum, donc c'est déjà ça. C'est quand même des infrastructures qui étaient ouvertes à tout le monde. La maison du gardien où étaient retapés des vélos qui étaient donnés à des gens qui n'avaient pas les moyens de s'en payer. Enfin bon.
On n'a plus les installations, il n'y a plus les enfants en train de venir rouler, il n'y a plus les familles actuellement. J'espère que ça va revenir et ça serait bien que ça revienne.
Les propos recueillis par Sarah Mégery, les boucles de Tina réouvertes donc, même s'il n'y a pas pour le moment de parking ni de sanitaire pour les visiteurs. Il est 17h56, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer l'actualité internationale et nationale. On se retrouve après une page de publicité.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés. Radio Rythme
Bleu. La suite d'Info Week-end, Isabelle Pelletier.
Et à l'actualité, dans le monde, Israël en état d'alerte maximale. L'État hébreu craint des attaques du Hamas ou du Hezbollah libanais après la mort mercredi d'Ismaël Haniyeh, l'ancien chef du Hamas. La tension qui monte aussi à la frontière libanaise. Les villages chrétiens à la frontière sud du Liban sont pris entre deux feux, celui du Hezbollah et celui de Tsahal. Les échanges de tirs continuent entre le Hezbollah et l'armée israélienne après la frappe meurtrière qui a visé il y a une semaine le Golan annexé. Les habitants d'Ermimas, village chrétien à la frontière avec Israël, vivent dans la crainte d'une offensive israélienne majeure. Le reportage d'Inès Gilles pour Europe 1.
Au volant de sa voiture, Choukri parcourt les ruelles de Dermimas, son village. Le jeune Libanais de 28 ans est de ceux qui ont fait le choix de rester malgré le danger. Dermimas est situé le long de la frontière avec Israël. Depuis le début de la guerre entre le Hezbollah et Tsahal en octobre, la bourgade est entre deux feux. Choukri en sait quelque chose. Il y a un mois, il a failli être touché par un missile.
J'ai ouvert la porte, j'ai entendu le son du missile, c'était proche. J'ai commencé à courir, j'étais sous le choc.
4600 habitants, principalement chrétiens, vivaient à Dermimas avant la guerre. Ils ne sont que 500 à être restés. Les bombardements israéliens et les tirs de roquettes du Hezbollah non loin sont quotidiens. Malgré tout, ceux qui restent ne veulent pas abandonner leurs terres, car dans ce village, la majorité sont des agriculteurs comme Michael.
Je ne peux plus accéder à mes terres à cause de la guerre. C'est trop près de la frontière avec Israël. Mais au moins, en restant ici, on a le lait des vaches.
À chaque nouvelle montée de tension, Dermimas retient son souffle dans la crainte d'une invasion israélienne du Sud-Liban. À Dermimas, Inès Gilles, pour Europe 1.
Et à noter que Washington a ordonné vendredi le renforcement de son dispositif militaire dans la région. Aux États-Unis, l'actuelle vice-présidente américaine Kamala Harris a obtenu suffisamment de voix chez les démocrates pour être assurée de devenir la prochaine candidate du parti lors de l'élection présidentielle de novembre. Un couronnement éclair moins de deux semaines après l'abandon de Joe Biden. Kamala Harris a obtenu le soutien de plus de la moitié des délégués lors d'un vote en ligne. La vice-présidente s'est dite honorée d'avoir dépassé ce seuil avant la clôture du vote lundi. À 59 ans, Kamala Harris acceptera formellement cette investiture à la convention démocrate prévue à Chicago à la mi-août. Elle affrontera donc Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Cet échange historique de prisonniers entre la Russie et plusieurs pays occidentaux du jamais vu depuis l'effondrement de l'URSS, 26 ex-prisonniers ont pu regagner leur pays, dont le journaliste américain Ivan Gershkovitch. Le reporter du Wall Street Journal est arrivé dans la nuit de vendredi à Washington avec d'autres, en échange notamment d'un agent secret russe détenu en Allemagne, Vadim Krasikov, qui avait pourtant été condamné pour meurtre. Il purgeait une peine de prison à vie en Allemagne pour l'assassinat d'un géorgien issu de la minorité tchétchène qui avait combattu contre les forces russes entre 2000 et 2004. Le président américain Joe Biden a salué une prouesse diplomatique. Et puis en métropole, toujours en raison de cette escalade des tensions au Moyen-Orient et de l'annonce du jour de colère décrété par le Hamas, le ministre de l'Intérieur démissionnaire a demandé le renforcement de la protection de la communauté juive. Le risque d'un passage à l'acte est réel, a notamment estimé Gérald Darmanin. L'actualité dans la région. En Australie, la police fédérale a procédé à la saisie de 900 kilos de méthamphétamine et à l'arrestation de deux trafiquants soupçonnés d'appartenir à un important syndicat international du crime. Le point avec notre correspondant Jean-Pierre Zajac.
C'est 900 kilos de méthamphétamine ou ICE d'une valeur à la revente proche des 60 milliards de nos francs avait été dissimulé dans des machines industrielles à commande numérique qui sont arrivées à Sydney à bord d'un porte-conteneur en provenance des États-Unis. Ces machines avaient ensuite été livrées à un entrepôt de banlieue, lequel avait été placé sous la surveillance de la police fédérale une fois leur contenu détecté grâce à la coopération de l'Agence américaine de répression des stupéfiants. Un Australien de 31 ans, originaire du Zimbabwe, a été arrêté avec un complice alors qu'il prenait possession de la marchandise. Tous deux risquent la prison à vie. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
18h01, nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de développer l'actualité sportive. On parlera bien sûr des JO et on se retrouve après une page de pub.
La Fiat Panda hybride à 1 695 000 francs. Ou peut-être le pick-up Renault Rock à 2 295 000 francs. Et pourquoi pas le SUV Ford Kuga à 2 995 000 francs.
En ce moment, dans tout le groupe Jondo, difficile de choisir tellement les offres sont incroyables sur toutes les marques du groupe. Offre valable uniquement sur les véhicules signalés. Possibilité de financement et d'assurance tout risque avec nos partenaires. Plus d'infos sur les pages Facebook du groupe Jondo.
À ces prix-là, pas d'hésitation. On y va. Groupe Jondo, depuis 50 ans à vos côtés.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
La suite de l'information et tout le sport, Isabelle Pelletier.
Et à la une du sport, les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
On fait le point sur les JO avec vous, Mickaël Juneski. On évoque notamment les épreuves à venir.
Oui, après la pluie de médailles et d'or, avec notamment Teddy Riner en judo ce matin, Joris Daudet, le triplé inédit en BMX, ou encore le phénomène Léon Marchand, encore vainqueur de la finale du 200 mètres 4 nage dans les bassins parisiens, on suivra à nouveau les épreuves de natation. En effet, Maxime Grousset, le Calédonien, a validé sa place pour la finale du 100 mètres papillon ce matin. On l'écoute.
Ça s'est bien passé. Il y a encore un poil de non-maîtrise sur la fin. Voilà, il va falloir que je refasse ça bien dans ma tête.
Et Maxime Grousset qui est champion du monde de la discipline. Une finale à suivre demain matin aux environs de 5h30. Et puis toujours en natation, la Calédonienne Emma Terebo devrait être alignée pour sa part sur le relais 4x100 mètres 4 nages. Parmi les autres disciplines à suivre, du cyclisme sur route, du tennis, du tir au pistolet féminin avec une chance de médaille pour la tricolore Camille Jędrzejewski. En équitation aussi, l'équipe de France est en finale de dressage après avoir remporté le bronze aujourd'hui en saut d'obstacle. La suite des épreuves d'athlétisme, notamment les qualifications à la perche, le décathlon masculin, la finale du triple saut ou encore le relais 4x400 mètres. Il y aura aussi de l'escrime ce soir, le tournoi par équipe pour les sabreuses françaises qui affronteront les Algériennes en quart de finale, le judo et le tournoi par équipe, sans oublier donc le cyclisme sur route. Et puis en surf, le Tahitien d'origine calédonienne, Kaoli Vast, disputera lui la demi-finale de la compétition en individuel à Te'ahupo. On l'écoute.
Beaucoup d'émotions. Enfin, c'était une série dure. Et voilà, c'est des séries comme ça où voilà, ça passe pour moi, mais c'est comme ça, c'est la compète, mais top série, méga. Je vais rentrer à la maison et focus pour, voilà, pour la prochaine, garder la routine et voilà, let's go.
La suite encore du programme, on passe au sport collectif. Il y aura du handball avec un match France-Hongrie chez les messieurs et Espagne-France chez les dames. Du football, cette fois le quart de finale France-Brésil pour les féminines. Après la qualification aujourd'hui des Bleus pour le dernier carré de la compétition, on dépend de l'Argentine. Il y aura aussi du basket puisque les Françaises affronteront les Australiennes. Encore un mot du côté des têtes d'affiche hein, dans ces Jeux Olympiques puisque en tennis, une finale du tournoi qui opposera ce soir l'Espagnol Carlos Carlos Alcaraz au Serbe Novak Djokovic pour la médaille d'or. Pour le moment, au classement des médailles, la Chine est en tête avec déjà 31 médailles, dont 13 en or, juste devant la France qui est deuxième avec ses 36 médailles, dont 11 en or. L'Australie est troisième avec 11 titres sur 22 podiums, juste devant les États-Unis.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et c'est Anne-Sophie Dumondor qui est aujourd'hui la gagnante de notre jeu de mémoire de jeu et qui remporte un bon carburant de 5000 francs offert par notre partenaire Shell. Nous vous demandions parmi ces coureurs de fond finlandais, lequel avait obtenu 9 médailles d'or. Vous aviez le choix entre Lasse Virenne, Hannes Kolehmainen et Paavo Nurmi. La bonne réponse était Paavo Nurmi, légende des années 1920, surnommé le Finlandais volant. Rendez-vous demain pour une nouvelle question de mémoire de jeu sur RRB. On passe maintenant au reste de l'actualité sportive et ce sont les sports mécaniques, Mickaël.
Le championnat du monde des rallyes fait étape en Finlande ce week-end. Kalle Rovanperä mène la danse après les 10 premières spéciales. Le pilote Toyota est en tête devant le gallois Elfyn Evans et le français Sébastien Ogier qui complète le podium. En MotoGP cette fois, le rendez-vous du week-end c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. L'Espagnol Jorge Martin a déjà dominé les essais libres. Côté français, Fabio Quartararo s'est classé 16e, tandis que Johan Zarco a réalisé le 17e temps de référence. Les deux tricolores devront passer par les repêchages. Qualification à suivre ce soir avant la sprint race et la course, ce sera demain soir.
En Calédonie, on évoque la suite des championnats territoriaux de padel.
Oui, dernier week-end de match pour cette compétition. Près de 200 pratiquants étaient inscrits. Ce sport de raquette a trouvé de nombreux adeptes avec ce premier tournoi qui ravit les joueuses et les joueurs après l'arrêt de toute compétition depuis le mois de mai.
Déjà, on a de la chance pour la météo, c'est super bien organisé. En plus, c'est en même temps que les garçons, donc ça permet de voir un peu tous les joueurs, que ce soit filles ou garçons, on se mélange, on discute, on se retrouve, on passe la journée au club au final, même si on n'a que deux matchs dans la journée. En tout cas, il y a une très bonne ambiance et on est toujours très content de se retrouver.
La plupart des joueurs, ils sont tous là.
Là, on a commencé quand? Semaine dernière. Là, on joue en demi. On verra bien. Il y a du monde, il fait beau, l'ambiance est cool, donc c'est top.
Bah, par rapport au climat actuel, c'est vrai que du coup, ça change. Ça fait du bien de refaire du sport, de pouvoir profiter et tout, de rencontrer un peu tout le monde. Et ça vide la tête.
J'étais participant, mais éliminé assez vite. Mais on est là pour l'ambiance, pour la convivialité. Il y a beaucoup de monde qui regarde, donc c'est très sympa. Je pense que ça manquait. Je pense que tous les Calédoniens voulaient se retrouver. Et je pense que cet événement fédère, donc c'est vraiment sympa.
C'est super, ça. C'est super sympa. Et puis voilà, l'ambiance est conviviale et tout, quoi. Donc voilà.
Les finales de ces championnats de Calédonie de padel se disputeront demain après-midi sur les terrains du club du Receiving. Le tournoi est qualificatif pour les championnats de France de padel qui sont prévus en septembre prochain.
Merci Mickaël, il est 18h08. On va maintenant passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Max.
Exactement. Alors, bonsoir à tous. Pas de vigilance particulière pour cette nuit. La soirée sera bien étoilée avec, sur la façade ouest et aux loyautés, quelques remontées nuageuses. Le vent de secteur sud sera de 10 à 15 nœuds, mollira de 5 à 10 nœuds sur l'est et le sud, et les températures de la nuit remonteront légèrement, mais resteront fraîches quand même, souvent entre 16 et 18 degrés, et jusqu'à 12 degrés dans l'intérieur. Demain matin, le soleil l'emportera largement sur l'ensemble du territoire. Le vent soufflera de secteur sud entre 10 et 15 nœuds, sauf sur la côte test qui restera majoritairement déventé, excepté au débouché des vallées exposées.
Merci beaucoup Max pour la météo et pour la technique. Il est 18h09, c'est la fin de ce journal.